passion moderniste.
Vive le roi !
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses qui sont en master ou en thèse et qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire moderne, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 41, Bérengère et les apothicaires parisiens, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse
Personne.
Aujourd'hui, je vous propose un sujet à la croisée de nombreuses histoires. Nous allons parler de l'histoire de la médecine, de la pharmacie, de l'histoire urbaine, l'histoire économique, l'histoire des savoirs, des techniques, de la botanique, de la chimie, histoire sociale, histoire parisienne. Vous allez voir, ça va être passionnant. Et notre invité aujourd'hui, notre guide dans le monde des apothicaires parisiens, c'est Bérengère Pinault. Bonjour Bérengère.
Bonjour Fanny.
Bérengère, je te reçois parce que tu es donc doctorante à l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales, depuis 2020. Tu es sous la direction de Raphaël Mandressi et donc tu fais une thèse sur le sujet « Le quotidien et les savoirs des apothicaires parisiens au XVIIIe siècle ». Ce sujet, il est trop bien. Je suis trop contente qu'on fasse ça parce que je suis sûre que ça va intéresser plein de gens. Ensemble, on va parler d'une période, le XVIIIe siècle. On va aller de 1700, le moment de la construction d'un laboratoire de chimie dans le jardin des apothicaires, rue de l'Arbalète à Paris, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, 1770, la disparition des corporations. Bon là, vraiment, j'ai donné quelques éléments, mais on va revenir à tout ça en détail. Mais déjà, Bérengère, première question importante et un peu rituelle dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ?
Alors, le sujet des apothicaires m'est arrivé en fait assez soudainement lors d'une discussion avec la personne qui allait devenir mon futur directeur de recherche, Raphaël Mandressi, lors d'un rendez-vous de recherche. C'est en fait en me présentant un petit peu l'histoire moderne parce que je savais déjà que je voulais travailler sur l'histoire de la médecine et l'histoire moderne. Donc en fait, on a évoqué des thèmes ensemble. Il m'a parlé de la profession des apothicaires. En fait, je pense que un peu comme tout le monde, ça a fait émerger des imaginaires. Et donc, je me suis dit pourquoi pas ? Pourquoi pas travailler sur ce sujet ? Ça peut être très intéressant et je savais aussi que j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur le quotidien des apothicaires, les manières de faire, les pratiques, la préparation des remèdes. Donc dans un premier temps, dans un mémoire, et puis après j'ai continué à travailler sur ce sujet que j'ai fait devenir ma thèse en fait.
Et je me dis, un sujet comme ça, ça n'a pas déjà été étudié. Et toi du coup, qu'est-ce que tu apportes avec ta thèse ?
Donc oui, en fait, les apothicaires, c'est un sujet qui passionne le grand public, mais aussi des personnes comme des pharmaciens de profession. Il y a beaucoup d'ouvrages dessus. Dans le milieu des historiens, ça commence à intéresser des historiens depuis une trentaine d'années. Donc on a, voilà, d'un côté, on va dire les pharmaciens de profession qui travaillent sur ce sujet. Et puis de l'autre côté, plutôt des personnes historiennes de formation. Du côté des pharmaciens, il y a beaucoup, beaucoup de littérature. Donc c'est extrêmement intéressant de les lire parce qu'eux, ils ont l'expérience des pharmaciens. Pas l'expérience du XVIIIe siècle ou même l'expérience médiévale des apothicaires du Moyen-Âge. Mais ils sont capables de nommer des instruments, de parler de techniques parce qu'ils ont un savoir-faire. Et ils sont capables d'en parler bien. Donc, ce que j'apporte avec ma thèse, c'est plutôt une approche d'histoire sociale, d'histoire. Donc, je m'interroge sur les manières dont les apothicaires vivent en société, ont des contacts avec d'autres professions. Je m'interroge sur la place sociale, les classes sociales des apothicaires, ce que c'est un apothicaire dans une ville à Paris, au XVIIIe siècle. Et la chose la plus centrale dans ma thèse, c'est donc les savoirs des apothicaires et j'essaie de comprendre comment ces savoirs sont à la fois reliés à des questions médicales, donc ce sont des savoirs médicaux, mais aussi des questions pratiques, des questions sociales, par exemple la place d'un apothicaire par rapport à la place d'un médecin ou d'un chirurgien, mais également des questions commerciales, économiques, politiques, voire religieuses. Parce que l'apothicaire, à Paris, au XVIIIe siècle, il est relié à tous ces domaines.
C'est ce que j'ai dit en début d'épisode, on va avoir beaucoup, beaucoup de termes à évoquer. Je pense que ça va être un épisode un petit peu long, je pense, aujourd'hui. Alors, déjà aussi, on va poser le décor, comme d'habitude dans Passion Moderniste. Sur quelle période est-ce que tu travailles ? Et parle-nous un petit peu de Paris au XVIIIe siècle. Comment c'était à l'époque et qu'est-ce qu'il y a comme grands événements à l'époque ?
Le XVIIIe siècle, c'est une période de grande vitalité intellectuelle, artistique, culturelle. On connaît tous le XVIIIe siècle comme le siècle des Lumières.
Oui.
Pour Paris, on a par exemple la ville, peut-être que je peux donner le nombre d'habitants pour
oui, tout à fait,
avoir
ouais,
une
on a
idée
combien de
en tête.
À l'époque.
Donc, il y a un accroissement de la population. On passe de 500 000 habitants en 1700 à 600 000 habitants
ah
à
oui,
la
quand
fin
même,
du
ouais.
siècle.
Donc, on a pas mal d'habitants nouveaux qui arrivent.
Voilà. Et donc ça se traduit dans la ville directement avec une expansion de la ville qui s'étend vers le sud-ouest, donc avec la construction de quartiers comme le Faubourg Saint-Germain, le Faubourg Saint-Honoré, et puis aussi de l'autre côté vers le Faubourg Saint-Antoine, qui est un quartier beaucoup moins aisé. Et donc on a une expansion comme ça. Il y a aussi à Paris, au XVIIIe siècle, durant la période, donc je parlais d'une grande vitalité intellectuelle, culturelle, avec, à partir des années 1750 à peu près, la construction de nombreux jardins, des jardins botaniques qui sont destinés au public. Donc, en fait, à partir de cette période, les gens, le public en général, apprécient se promener dans les jardins, apprécient certains spectacles dans les jardins. Et si le sujet vous intéresse, il y a la très belle thèse de Jan Sinowiecki qui a été publiée récemment sur les jardins à Paris au XVIIIe siècle, pour illustrer ce que j'explique. C'est aussi évidemment le XVIIIe siècle, la période où de nouveaux objets de consommation arrivent, comme le thé, le café et également des objets inspirés du style chinois. Donc on retrouve beaucoup de paravents, de services à thé chinois ou simplement des meubles peints à la façon de la Chine. C'est comme ça que moi, je les vois décrits dans mes sources. Et puis, on a également aussi aux alentours des années 1760 un changement du goût. Un exemple de ce changement du goût se traduit dans les odeurs. Et ça a été étudié par l'historien Alain Corbin. Le miasme et la jonquille, un très beau livre, où il montre comment les Parisiens, les Français, délaissent un petit peu des odeurs fortes, prises des matières animales comme le musc, pour aller vers des odeurs plus florales, telles que la jonquille. On a un changement du goût, un changement de la consommation. C'est le siècle d'une consommation abondante d'objets. Donc voilà, c'est un siècle d'une grande vitalité intellectuelle et d'une grande vitalité commerciale également.
Alors justement, on va parler maintenant des apothicaires d'abord en général, puis on parlera des apothicaires à Paris. Alors déjà, première question très très basique. Comment est-ce qu'on définit un apothicaire au XVIIIe siècle ? Et d'ailleurs, d'où vient le terme ?
Le terme d'apothicaire vient du latin apothecarius, qui signifie la boutique, le magasin. Donc en fait, l'apothicaire, c'est un terme qui est employé depuis l'époque médiévale. C'est la personne qui tient une boutique ou un magasin.
Et donc rien à voir avec la santé, a priori.
A priori, rien à voir avec la santé. Après, il y a également le terme d'épicier. Et donc l'épicier, c'est celui qui vend des épices. L'épicier, il a tendance à voyager davantage. Et donc, en fait, ces deux métiers, dans beaucoup de villes, ils sont associés. Mais ensuite, au XVIIIe siècle, donc il y a eu plusieurs siècles qui se sont écoulés, et il y a eu des réglementations dans les villes en Europe, y compris en France, y compris à Paris, pour réglementer le partage des tâches, un petit peu entre les épiciers et les apothicaires. Et donc, au XVIIIe siècle, à Paris, un apothicaire, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans la vente des remèdes. Parce qu'avant, ils pouvaient vendre des épices, comme les épiciers, mais également des confits, des produits dérivés du sucre, plusieurs types de fruits, etc. Mais au XVIIIe siècle, ils se sont spécialisés petit à petit.
On voit effectivement qu'on a déjà eu ça entre bah, les médecins et les chirurgiens. On voit qu'en fait, la réglementation des métiers, c'est beaucoup à cette époque-là.
Alors, au XVIIIe siècle, la réglementation, elle est déjà établie. La réglementation dont je parle, elle s'est mise en place petit à petit depuis le XVe siècle. À la fin du XVe siècle à Paris, le roi décide de mettre ensemble les apothicaires et les épiciers dans une même corporation. Et puis, petit à petit, la corporation décide de produire ses propres règlements, toujours avec l'accord du roi, pour distribuer, on va dire, les rôles et les biens mis à la vente. Et évidemment, ça produit beaucoup de conflits. Donc, à partir du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on a des conflits qui sont liés à ce qui peut être vendu par les épiciers ou par les apothicaires.
Puisqu'on est dans la définition, j'en profite pour te demander, l'expression « compte d'apothicaire » qu'on a encore aujourd'hui, est-ce qu'elle s'explique déjà à cette époque ? Donc, le compte d'apothicaire, c'est le fait de surveiller un peu ses comptes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Dans le passé, je ne sais pas vraiment si cette expression, elle existait, mais il y a évidemment des comptes d'apothicaires qui existaient. Alors là, c'est intéressant parce que moi, j'en ai pas dans mes sources, j'en ai pas trouvé pour Paris, mais j'ai des traces de comptes d'apothicaires. Donc je peux imaginer à quoi ils ressemblent. Je sais que, par exemple, les apothicaires tenaient dans des grands cahiers leur compte, c'est-à-dire ils notaient sous forme d'articles les fournitures de médicaments qu'ils faisaient à divers clients. Et donc là, on parle de cahiers d'environ 300 feuillets.
Donc très détaillés.
Et tous remplis à peu près à raison de 1 an et demi à 3 ans pour 300 feuillets.
Oui, donc c'est vraiment très détaillé. Donc bon, là, on peut faire un lien comme ça, effectivement. Voilà. Alors, raconte-nous déjà, en général aussi, comment est-ce qu'on devient apothicaire ? Est-ce qu'il y a une formation spécifique ?
Oui, alors c'est très réglementé, encore une fois, ici, pour Paris, mais comme pour à peu près tout le système des corporations en France et même dans d'autres pays en Europe, un apothicaire doit d'abord faire un apprentissage. Donc l'apprentissage dure environ 8 années.
8 ans ?
8 ans d'apprentissage. Oui, c'est très long comparé à d'autres métiers qui sont aux alentours de 6 ans ou même 3 ans, voire 2 ans pour les métiers du négoce à Paris au XVIIIe siècle, justement, qui se réduisent un petit peu. Alors, après l'apprentissage, l'apothicaire a un chef-d'œuvre à faire et c'est la condition d'entrée dans la corporation. Ce chef-d'œuvre, il est mené en face d'une assemblée de maîtres apothicaires, mais également de docteurs régents de la faculté.
Donc ça, c'est pour donc on a une vraie faculté, tout ça, ouais.
Donc, alors en fait, non. Enfin, c'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir les docteurs régents de la faculté de médecine de Paris qui viennent et qui se déplacent dans le bureau de la Corporation des apothicaires qui se situe rue des Lombards.
La rue des Lombards qu'on a aujourd'hui à Paris.
Qui existe toujours, par
contre. Qui est plus la rue des Bars aujourd'hui, hein, clairement.
Par contre, leur bureau, qui était rue des Lombards, n'existe plus. Il était localisé dans le cloître Sainte-Opportune, mais le cloître n'existe plus.
Donc là, on voit qu'il y a un lien, effectivement, entre les apothicaires et les médecins. Donc là, oui, les professions sont quand même un peu liées.
Les professions sont totalement liées. Ils sont en collaboration constante, même si, encore une fois, il y a quelques conflits, notamment liés à ce que les médecins font et ce que les apothicaires font, le savoir de l'intellect et le savoir de la main. Parfois, il y a des conflits et des chevauchements, d'ailleurs. Mais donc, pour revenir à la formation, donc, les apothicaires passent ce chef-d'œuvre devant cette assemblée de docteurs et de maîtres apothicaires. Et une fois le chef-d'œuvre fait...
Mais en quoi ça consiste un chef-d'œuvre d'apothicaire ? Parce que j'imagine un chef-d'œuvre pour une profession artistique, mais là, pour une profession d'apothicaire, ça consiste en quoi ?
Avant le chef-d'œuvre, les maîtres apothicaires demandent aux futurs apothicaires, aux futurs maîtres apothicaires, de composer un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'ils lui donnent une liste de remèdes à effectuer et donc à préparer. Et donc, le jour du chef-d'œuvre, l'apothicaire se présente et doit être capable de faire la liste des matières médicales nécessaires à la composition des remèdes, de les préparer et ensuite de composer le remède.
Oui, on ne peut pas les tester, c'est un peu compliqué de les tester, mais au moins bah, on vérifie qu'il les a bien préparés, c'est ça ?
C'est ça, ils ne sont pas capables de les tester, je pense, même si comme elles sont prêtes, à mon avis, elles sont gardées et conservées au bureau des apothicaires, peut-être pour usage futur. Et donc, après le chef-d'œuvre, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Après le chef-d'œuvre, il y a une dernière étape qui est celle de la prestation de serment devant le lieutenant de police. Donc, les maîtres apothicaires, à nouveau avec les docteurs de la faculté de Paris et le nouveau maître apothicaire, vont se rendre chez le lieutenant de police et prêter serment. Alors, je ne sais pas exactement les mots qui étaient donnés, mais il y avait un serment. Mais alors là, j'ai parlé du chef-d'œuvre et du serment. Mais en fait, il y a d'autres étapes qui s'insèrent entre l'apprentissage et le chef-d'œuvre, qui sont plusieurs examens, comme par exemple l'acte des herbes, qui est une présentation des herbes et qui évalue la connaissance des herbes médicinales ou des matières médicales. Et également la lecture, qui évalue la connaissance des aspirants à la pharmacie dans les textes des pharmaciens ou dans les textes de la littérature médicale.
Et est-ce qu'on peut être apothicaire peut-être de père en fils ? Est-ce que ça se transmettait ?
Oui, c'est très fréquent que les fils d'apothicaire soient formés auprès du père dans la même boutique. Et d'ailleurs, les fils d'apothicaire, ils sont un peu privilégiés parce qu'ils ont un ordre d'entrée dans la corporation plutôt que les apothicaires ordinaires, que les aspirants ordinaires. Donc, ils se présentent et en fait, ils n'ont pas besoin de passer l'acte des herbes. Ils passent directement au chef-d'œuvre. Et donc, ils ont une durée de passage beaucoup plus rapide.
Donc, ils commencent plus jeunes, en fait, à exercer.
Ils commencent depuis très jeunes, oui. Dès qu'ils peuvent, je pense, parler, manipuler des choses, et pas trop dangereuses, évidemment.
Donc, adolescent
plutôt jeune, ils commencent à pratiquer, sachant que les apprentissages se commencent aux alentours de peut-être 12-14 ans. Il faut se dire qu'un fils d'apothicaire, il est avec son père, donc il travaillera dans la boutique tôt. Ensuite, il sera mis en apprentissage dans une autre boutique peut-être. Et puis,
Quand tu dis en fait 8 ans d'études, enfin d'apprentissage, en fait, bah, 20, 21 ans, en fait, c'est bon, ils peuvent travailler.
C'est encore très compliqué parce que c'est complexe, parce qu'il y a quand même le brevet d'apprentissage qui est obligatoire et ils doivent le faire chez quelqu'un d'autre. Donc, ils doivent passer par cette étape-là. Donc, au final, ils entrent dans la corporation peut-être aux alentours de 25, 30 ans parce qu'en fait, ça coûte très cher de s'installer et il y a des dons à la corporation. Des versements qui doivent être faits. On parle de 1200 livres.
C'est beaucoup pour l'époque ?
Je pense, oui. Un loyer pour un an, c'est 600 livres.
Ah oui, donc là, 1200 livres, c'est beaucoup, effectivement.
1200 livres, ouais, ça coûte cher. Donc, il faut cet argent pour s'installer. Et il y a des apothicaires qui ne s'installent pas avant un certain temps. Certains restent garçons de boutique pendant très longtemps avant d'intégrer la corporation.
Mais du coup, est-ce qu'on dit pharmacien aussi à l'époque ou pas encore ?
Alors, la pharmacie, c'est un mot qui est utilisé. Le pharmacien, c'est aussi un mot qui est utilisé, puisque c'est dérivé.
Mais ce n'est pas un métier, ce n'est pas une corporation.
Non, en fait, la pharmacie, ça va désigner l'art de la pharmacie, la connaissance en elle-même. Mais le métier, c'est le métier d'apothicaire.
D'accord. Alors, là, on a compris comment il était formé. Maintenant, raconte-nous. Bon, alors, en général, parce que j'imagine que là, tu pourrais me parler pendant des heures de comment travaille un apothicaire. Mais déjà, une fois qu'il a passé son diplôme et tout ça, que c'est bon, il est maître apothicaire, il a prêté serment et compagnie. Comment est-ce qu'il travaille ? En quoi consiste son métier, son activité ?
L'apothicaire, il a principalement une activité assez simple, c'est-à-dire celle de préparer des remèdes et donc de les délivrer à des clients ou des patients. Au quotidien, ça prend quelle forme ? Ça veut dire que l'apothicaire, il travaille dans sa boutique, mais il a aussi des aides, c'est-à-dire qu'il a un garçon de boutique, il a également une domestique et même parfois un apprenti. Donc, dans l'ordre hiérarchique, c'est l'apprenti puis le garçon de boutique.
Donc, on a quand même des rôles assez hiérarchisés et tout ça.
C'est extrêmement hiérarchisé. Donc, par exemple, pour préparer un remède, l'apothicaire, il travaille donc dans sa boutique, mais il travaille aussi dans son magasin, c'est la pièce arrière derrière la boutique, mais également dans sa cuisine. Et parfois, ils ont des laboratoires, c'est-à-dire qu'ils vont conserver tous leurs ustensiles, comme par exemple l'alambic, les presses, plusieurs casseroles, etc. Et les fourneaux, par exemple, pour travailler les remèdes qui peuvent prendre plusieurs heures, voire parfois toute la nuit. À ce titre, il y a souvent des lits dans les pièces pour permettre à l'apprenti, si c'est à lui que revient la tâche de finir le remède. Voilà, donc il y a tout un circuit en fait dans la maison. par lequel l'apothicaire passe pour travailler les remèdes, qui inclut également des pièces comme le grenier. J'ai certains cas d'apothicaires qui travaillent dans leur grenier. Ils ont des fourneaux, ils ont également un lit pour se reposer et ils préparent des remèdes, ou bien ils font sécher des plantes dans leur grenier.
Et au niveau de la boutique, alors on a un peu des images d'Épinal, alors je ne sais pas si c'est d'Épinal d'ailleurs. On a un petit peu des images, alors je pense notamment aux Hospices de Beaune, où on a toute une pharmacie avec des meubles, avec plein de tiroirs, où on a des dépôts en faïence. Est-ce qu'on a déjà ça à l'époque ?
Oui, alors on a toujours l'image de l'apothicaire avec les chevrettes, les pots de faïence. Les chevrettes, est-ce que tu
vois ? Je vois pas ce que c'est, non.
Les chevrettes, c'est des sortes de pots de faïence avec des goulots et aussi l'anse de l'autre côté. Alors, ces types de pots, ils sont omniprésents dans les boutiques au XVIIIe siècle, mais également avant. Et on a aussi l'image de comptoirs en bois épais ou bien de grandes armoires en bois avec plein de tiroirs. Donc ça, moi, je les retrouve dans mes recherches. Je sais que, par exemple, les apothicaires ont plusieurs comptoirs dans leur boutique avec souvent donc plein de tiroirs, et je crois même que j'ai un cas d'apothicaire qui a une fente pour faire glisser l'argent dans le comptoir.
C'est pratique.
J'ai aussi noté l'apparition d'étiquettes en cuivre, petit
en
à petit.
En cuivre ?
Oui, c'est comme ça qu'elles sont décrites dans les inventaires après décès.
Ah,
donc
ouais.
Elles sont cloutées peut-être ou vissées dans le bois, et elles servent à indiquer le remède ou le médicament ou les plantes. Ou
oui, parce qu'on
substance.
Imagine des étiquettes un peu en papier, écrites à la main et tout ça, mais là directement en cuivre, c'est assez fort.
Oui, c'est ça. Donc on peut imaginer qu'il y a une sorte d'uniformisation qui se fait petit à petit dans des collections de pots presque toutes pareilles. Mais il arrive aussi que des apothicaires, parce que ça coûte cher de s'installer, achètent un fonds de boutique. Et donc, ça, je le vois aussi dans les inventaires, on a des fois des apothicaires qui ont des pots fêlés ou des pots cassés en mauvais état. Donc, il y a de tout, en fait.
Alors, qu'est-ce que fabrique un apothicaire? Quels sont un peu les médicaments et les remèdes à la mode au XVIIIe siècle?
Tout de suite, le remède à la mode, je ne sais pas si certains le savent déjà, mais c'est le lavement. Le lavement, c'est le remède à la mode du XVIIIe siècle.
C'est le même sens qu'aujourd'hui, du coup ?
Oui, c'est ça. Donc, le lavement, c'est une préparation qui est insérée dans une grande seringue et qui est injectée par voie anale.
Et ça, c'était à la mode au XVIIIe siècle.
Et les gens en raffolent.
Mais parce que ça fait quoi, en fait ? Ça nettoie l'estomac ?
Je pense que oui, c'est ça. Ça nettoie l'estomac et peut-être une forme de plaisir derrière.
Waouh, ok, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Mais du coup, là, le rôle de l'apothicaire, il est de quoi, en fait, de préparer la seringue ?
Son rôle, c'est parfois de tenir la seringue et d'appliquer, mais c'est aussi, évidemment, de préparer le remède à l'intérieur.
Oui, donc ils ont quand même un rôle assez actif. Ils ne font pas que vendre le remède, ils l'appliquent, en quelque sorte.
Oui, exactement. Il y a beaucoup de cas. Alors, moi, je ne le vois pas directement dans mes sources, mais on le sait, parce que les historiens l'ont montré, que les apothicaires se déplaçaient aussi dans des maisons et aller appliquer les remèdes chez leurs patients.
D'où j'imagine peut-être là les conflits avec les médecins et tout ça, parce que ça empiète un petit peu sur le côté la pratique de soigner quelqu'un.
Exactement. Qui est-ce qui soigne ? Qui est-ce qui dit quoi faire ? Qui est-ce qui dit que le patient a telle ou telle maladie ? Je connais par exemple un apothicaire qui parle de sa pratique, qui s'appelle Guillaume-François Rouel. Et lui, il parle sur plusieurs pages d'un cas d'une patiente qui n'arrivait plus à dormir depuis plusieurs mois. Et donc, il raconte qu'il était là avec le chirurgien et avec le médecin et qu'ils ont pratiqué la saignée. Donc là, il le dit. Le chirurgien, un autre remède à la mode, depuis bien plus longtemps, par contre,
la saignée. Il n'y a rien à préparer en soi, la saignée.
Non, c'est le chirurgien qui s'en charge.
Ah, d'accord, oui.
Donc là, le chirurgien se charge de la saignée. Le médecin est là sans doute pour dire que la patiente a tel ou tel problème et dire à l'apothicaire de préparer tel ou tel remède. Mais l'apothicaire dont je parle, Guillaume-François Rouel, il explique que lui, il a essayé ses propres remèdes sur la patiente et que petit à petit, tous les trois, avec le chirurgien et le médecin, ils se sont rendus compte que ces remèdes fonctionnaient. Voilà, donc en fait, on a des sortes de tensions, mais aussi une sorte de collaboration en même temps.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça le procédé pour aller chez un apothicaire. On va d'abord voir un médecin, un peu comme aujourd'hui. On va d'abord voir le médecin, il donne une ordonnance et on va chez le pharmacien. Est-ce que c'était pareil à l'époque ou est-ce qu'on pouvait directement aller chez l'apothicaire et faire sa commande ?
Non, alors les médecins coûtaient très cher. Donc, aller chez le médecin, en fait, c'est réservé aux personnes de classe aisée, riches. Par contre, il y a un système entre les médecins et les apothicaires pour les pauvres, c'est-à-dire des jours prévus pour que les pauvres viennent chez l'apothicaire et qu'il y ait un médecin qui fasse une prescription et que l'apothicaire prépare un remède.
Mais on peut pas aller directement chez l'apothicaire en mode « bon, bah, j'ai mal, mais j'ai pas besoin du médecin, j'y vais directement ?»
Si, du coup, si. Il y a beaucoup de personnes qui viennent chez l'apothicaire pour demander des fournitures de remèdes, c'est-à-dire qu'ils font une liste de remèdes qu'ils veulent, peut-être pour les avoir chez eux, et ils sont capables de payer très cher. Donc ça reste quand même un service qui coûte de l'argent.
C'est intéressant parce que là, on voit la clientèle des apothicaires est quand même plutôt aisée en général.
La clientèle est très aisée.
Ah, très aisée, ouais.
Il y a quand même de tout. Moi, je sais que dans mes archives, je sais qu'il y a des marquis, des comtesses, des comtes, des princes qui viennent chez des apothicaires pour demander des fournitures de médicaments, comme je disais. Mais il y a aussi des personnes comme des épiciers, des perruquiers, des gantiers. Il y a vraiment de tout, mais je ne pense pas qu'il y ait de pauvres qui payent autant. D'ailleurs, il y a un système où les pauvres payent moins.
Et est-ce qu'il peut y avoir des cas de peut-être d'apothicaires privés qui travaillent directement pour certaines personnes ou non, en général, c'est plutôt ils sont établis en boutique et ils travaillent pour plusieurs personnes à la fois ?
Je pense qu'on n'appellerait pas ça apothicaire privé. En fait, ils sont apothicaires, tout court. Ils appartiennent à la corporation ou pas, mais ils ont une clientèle. Ils ont un réseau de personnes qui...
Est-ce que le roi n'avait pas un apothicaire privé ?
Si, alors du coup, pour le roi, c'est une situation particulière. Lui, il a toute une armée de médecins et d'apothicaires qui s'appelle la maison médicale du roi. Et donc, il a plusieurs dizaines de médecins et plusieurs dizaines d'apothicaires et de chirurgiens à son service.
Et là, alors, tu as parlé des boutiques, des magasins, des apothicaires. Mais quand tu m'as parlé de tes recherches, tu m'as aussi parlé des jardins des apothicaires. Ils en avaient aussi, donc là, où ils font directement pousser leurs plantes ?
Oui, en fait, pas tous les apothicaires n'ont un jardin. Il y en a quelques-uns qui louent des jardins à des particuliers. Donc ça, j'ai 2 ou 3 cas sur une 60aine d'apothicaires que j'ai pu identifier. Mais autrement, ils ont un jardin communal, un jardin corporatif. C'était très, très bien organisé. Ils avaient un jardinier qui entretenait le jardin, dont on connaît le nom. Et d'ailleurs, c'est une famille de jardiniers, la famille Desmé. Et puis, le jardin, il est financé par la corporation des apothicaires. Donc, il y a des registres de comptes avec le descriptif de tout ce qui est acheté pour le jardin, des seaux, des cordes, etc. Donc, on peut faire l'histoire du jardin.
Quand je t'écoute, en fait, pardon, mais je me dis s'il y a des gens qui nous écoutent et qui écrivent des romans ou des histoires, mais là, on a du terreau pour faire 1000 histoires, en fait. On imagine l'histoire de ces jardiniers et puis il peut y avoir tellement de péripéties, ça peut être génial d'écrire tout ça.
Oui, en fait, d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui a écrit une histoire de cette famille de jardiniers.
Ah
donc, on pourra donner le...
Ouais, on mettra sur le site.
Mais oui, pour revenir au jardin, donc c'est un lieu de partage vraiment où la corporation des apothicaires se rassemble. Et donc, c'est là d'ailleurs que je commence mon étude parce qu'en 1700, il y a un laboratoire de chimie qui est construit dans le jardin. C'est un grand moment parce que d'abord, c'est une époque où la chimie, elle est assez controversée. La méthode chimique, je parle de la méthode chimique.
Pourquoi est-ce qu'elle est controversée ?
Parce qu'il y a un système traditionnel qui est celui des savoirs hippocratiques et galéniques. C'est les remèdes typiques comme les emplâtres, les baumes, etc., qui ne nécessitent pas de préparation particulière, qui se servent d'alambic, comme la distillation.
Les nouveaux procédés scientifiques sont critiqués.
C'est ça, de nouveaux procédés, de nouvelles manières de travailler sont critiqués. Mais alors, c'est extrêmement complexe, et donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais effectivement, voilà, il y a plusieurs traditions, et il y a des débats. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le décrire.
Est-ce vous qui avez fourni du cascara amer à Saint-Germain ?
Je n'ai vendu du cascara qu'à une seule personne ces derniers mois. Un serviteur que je n'ai pas reconnu. Il travaille peut-être pour Monsieur le Comte, mais je vous assure, je n'en savais rien.
On vient d'entendre un extrait de la série Outlander. Et notamment, dans la saison 2, on a donc un apothicaire parisien en Écosse et on le revoit après dans la saison. Enfin, on voit d'autres apothicaires dans la série ensuite. Qu'est-ce que tu penses de la représentation, déjà, de la boutique de l'apothicaire.
Oui, alors c'est vraiment passionnant parce que le personnage principal, Claire, quand elle rentre dans la boutique, il y a une ambiance feutrée, il y a du bois partout, des plantes qui sont attachées et qui sèchent au plafond. Et donc, ça donne vraiment cette impression d'un magasin calme, agréable, qui sent bon presque, qui sent les plantes. Je pense qu'il y a une réalité dans le sens où il y avait énormément de menuiseries, de bois dans les pièces d'apothicaire, de plantes qui séchaient. Ça, c'est avéré. Enfin, je le vois dans mes sources. Par contre, quand on suit un petit peu l'histoire qui se déroule durant cette saison 2, on voit que Claire retourne dans cette boutique à plusieurs reprises et que notamment l'apothicaire l'emmène dans l'arrière-boutique qui est une sorte de cabinet de curiosité. Et plus tard, il y a aussi toute une histoire avec une pierre magique qui permet de retirer du poison. Et donc là, je pense que c'est pas tout à fait la réalité.
Quoi ? Les pierres magiques n'enlèvent pas les poisons ?
Voilà, il y a effectivement un usage abondant des pierres pour soigner. Mais pas dans ce cadre-là, pas dans le cadre magique, spirituel.
Oui, pas comme je vois déjà fois aujourd'hui avec des gens qui disent telle pierre qui donne tel pouvoir et tout ça. Non, c'est pas ça à l'époque.
Oui, après, en fait, elles sont pulvérisées, elles sont réduites en poudre et elles sont utilisées dans des recettes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le cabinet de curiosité. Il y a beaucoup d'historiens qui ont montré que les apothicaires aimer les cabinets de curiosité.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, un cabinet de curiosité ?
Oui, bonne question. Un cabinet de curiosité, c'est une pièce où il y a des objets de toutes sortes qui sont exposés. Et souvent, c'est des objets rares et curieux. Alors, il y a des objets, ça va être des objets tirés de la nature, comme du corail, etc. Ou des dents de requin, ou des cornes de narval, de tout. Ou bien des objets fabriqués par des humains. Donc, des épées, ou des choses un petit peu à la lisière entre le naturel et l'artificiel, c'est la grande question de l'époque moderne.
D'ailleurs, je renvoie, alors il y en a plein partout des cabinets de curiosité, mais celui du musée de Valence est très joli, je le conseille, avec beaucoup d'animaux présentés. Voilà, j'en vois comme ça. Alors, Bérangère, on arrive enfin à nos apothicaires parisiens, dont tu nous as déjà pas mal parlé, mais donc raconte-nous combien est-ce qu'on a d'apothicaires environ à Paris au XVIIIe siècle ?
Alors, à Paris, il y a les apothicaires de la corporation, mais il y a tout un tas d'apothicaires qui exercent, qui ont le nom d'apothicaire, mais qui ne sont pas...
Des freelances, quoi.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, apparemment, les historiens estiment un nombre d'apothicaires à environ 130 pour Paris par année, je pense. Moi, dans la corporation des apothicaires, j'en ai identifié 70 à 80 pour chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y en aurait 50 autres qui exercent, comme tu dis, en freelance. Ce qui n'est pas délirant comme nombre.
Et est-ce que dans tes sources, tu vois où est-ce qu'ils sont répartis dans la ville ?
Oui, alors ça, du coup, c'est ma trouvaille dont je suis très fière. Il existe un catalogue des marchands qui est édité chaque année dans Paris et j'ai trouvé 5 éditions de ce catalogue pour 1720, 1750 et 1770.
C'est en quelque sorte l'annuaire de l'époque ?
C'est exactement ça. On a la liste des apothicaires par ordre d'entrée dans la corporation. Donc, encore une fois, ordre d'ancienneté, hiérarchie par l'ancienneté.
Toujours, oui.
Toujours, très important. Et les adresses de ces apothicaires, s'ils travaillent également pour des institutions hospitalières ou religieuses. Et donc, où est-ce qu'ils sont installés dans Paris ? Et ben, un peu partout. On a les iconiques rues, rue Mouffetard, on a la rue du Faubourg Saint-Antoine. Donc, les apothicaires à Paris au XVIIIe siècle, ils sont un peu éparpillés partout dans la ville. Il y en a des deux côtés de la Seine, sachant que ceux qui sont installés... Ah oui, s'il y a quand même un cœur autour de la rue des Cordeliers, de la place Maubert également.
Donc là, ouais, plutôt rive gauche, dans le sud de Paris.
Donc plutôt aux alentours de l'actuelle faculté de pharmacie. Ça, c'était un pôle. Et puis après, il y a aussi autour de l'actuel centre Pompidou. Donc c'est la rue des Lombards et tout ce coin-là. Là aussi, c'était un pôle important d'apothicaires.
Et est-ce que la corporation des apothicaires de Paris avait des spécificités, peut-être si on regarde par rapport à d'autres corporations en France ou en Europe ?
Je dirais que la spécificité de la Corporation de Paris, c'est qu'elle est associée avec des épiciers. Et ça, ce n'est pas le cas de toutes les villes. C'est plutôt à ce niveau-là, la différence.
Les corporations, c'est par ville que ça fonctionne.
Oui, c'est ça. C'est le système d'organisation des métiers à l'époque moderne. C'est comme ça que les métiers s'organisent. Est-ce que je peux juste dire un mot sur le terme de corporation ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait Et le terme de corporation n'existe pas à l'époque moderne ni à l'époque médiévale. C'est une convention que j'utilise parce qu'elle est employée par les historiens.
On disait quoi alors à l'époque ?
On parlait de communauté. Normalement, je devrais dire communauté. Mais je parle de corporation parce que c'est ce qui parle le plus à tout le monde.
Moi, je connais la communauté de l'anneau, mais non, la communauté des apothicaires, je ne connaissais pas, effectivement. Donc, ah, c'est intéressant, je ne savais pas qu'on disait pas ça pour l'époque. Donc, dans les sources, toi, tu vois communauté.
On voit communauté, on voit aussi le mot corps, parce qu'en fait, le corps des épiciers et des apothicaires est constitué de deux communautés de
métiers.
Comme
on entend aujourd'hui le corps médical.
C'est le même mot, mais en fait, ce n'est pas le même sens, parce que c'est réglementé par des lois juridiques, des lois économiques, politiques.
Et le groupe social des apothicaires, s'il faut le définir, est-ce que c'est des gens plutôt aisés ou non ?
On peut dire qu'il y a quand même un petit peu de tout. Il y a, j'ai le cas d'un apothicaire, Jérôme Pébernard, qui lui, chez lui, a des tissus mangés de verre. Donc je pense que...
Bon, juste, il n'aillerait pas. Hein.
Peut-être.
Pour un apothicaire, c'est pas top, effectivement, ça. T'as pas très envie d'aller chez lui quand tu sais ça.
Non, non. Par contre, il y en a d'autres qui ont des cabinets de curiosité, des bibliothèques à n'en pas finir, avec, on parle de plusieurs milliers de livres dans des bibliothèques qui coûtent extrêmement cher à l'époque. Donc, on a un petit peu de tout. Mais quand même, les apothicaires, quand ils tiennent boutique, de leur vivant qu'ils tiennent boutique, qu'ils ont une femme, des enfants et qu'ils ont plusieurs domestiques, ils sont aisés.
Et tiens, justement, est-ce qu'on a que des hommes qui sont apothicaires ou est-ce qu'on a aussi des femmes ?
Non, c'est réservé aux hommes. C'est un métier d'homme, exclusivement.
Je pose cette question en général, même si je me doute de la réponse, parce que voilà, l'époque moderne est quand même très réglementée et très, tu l'as dit, réglementée, hiérarchisée. Et on a vu dans mon épisode que j'avais fait sur les sages-femmes à l'époque moderne, on voit que les femmes sont de plus en plus exclues des métiers comme ça. Mais les femmes n'ont pas du tout de rôle dans le monde des apothicaires ?
Elles ont quand même un rôle. C'est-à-dire que d'abord, elles sont soutenues par la corporation des apothicaires quand elles sont veuves. Elles ont un versement financier.
C'est toujours le cas des veuves, en fait, on y revient toujours, en fait.
Elles sont mariées, elles ont un statut, elles sont soutenues. Par contre, j'ai remarqué aussi qu'elles ont quand même accès, quelque part, au compte, à la gestion de la boutique. Parce que, là, j'ai l'exemple de la femme de Guillaume-François Rouelle, dont je parlais tout à l'heure, qui, au décès de son mari, a constitué une liste entière de toutes les dettes, bonnes, mauvaises, douteuses... C'est comme ça qu'elles sont décrites. Un tableau entier avec les noms de tous les clients et de tous les patients pour aider le notaire à se repérer dans la clarification de tout ce qui reste à gérer après le décès.
Mais on ne voit pas du tout de femmes peut-être dans le rôle d'aide à la fabrication des remèdes ?
C'est possible qu'elles aient eu ce rôle. Moi, je suis incapable de le voir à travers mes sources, malheureusement.
Alors justement, rentrons un petit peu aussi dans le monde des familles des apothicaires. Qu'est-ce qu'on sait de leur vie quotidienne ou de leur maison ? Parce qu'on a parlé de la boutique, on a parlé du magasin, donc l'arrière-boutique en quelque sorte, on a parlé du grenier, mais est-ce qu'ils vivaient en fait peut-être au-dessus de tout ça ?
Oui, donc les apothicaires vivent souvent au premier étage et les domestiques ont des chambres au rez-de-chaussée. Donc ils ont accès plus facilement à la boutique peut-être. Et puis il y a aussi des chambres de domestiques au second, au troisième, quatrième étage parfois. Mais j'ai remarqué que les apothicaires vivent aussi en colocation parfois.
En colocation ?
Donc, en fait non, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas le bon terme, mais ils habitent dans des grandes maisons dont ils ne sont pas propriétaires et qui louent à des propriétaires. Et donc il y a aussi d'autres locataires dans la maison. Et là on parle d'étages en fait. Un locataire a un étage à lui ou à elle. Par exemple, il y a des situations assez étonnantes, je pense qu'ils sont liées à l'espace dans les maisons. Il y a le cas d'une domestique, pardon, c'est la cuisinière qui a une chambre dans une maison en face, parce que c'était sans doute plus pratique. J'ai le cas également d'un apothicaire qui a son laboratoire et sa boutique dans la maison à côté.
Oui, là, on s'adapte en fait à ce qui existe déjà.
On s'adapte à l'architecture. J'ai aussi oublié de parler des sociétés d'apothicaires. On a parlé un petit peu des gens qui travaillaient avec l'apothicaire, mais il y a aussi des moments où des apothicaires se mettent en société.
Mais là, quelle est la différence avec les corporations ?
On parle de société, c'est des associations, c'est des collaborations en fait. Ils sont à deux, ils ont été chez le notaire pour signer un contrat et ils travaillent à deux pour vendre des remèdes. Ça peut être deux frères, c'est le cas des frères Baird. Ça peut être le cas de deux apothicaires de la corporation.
Donc c'est plutôt une entreprise, en fait, si on réfléchit au terme par rapport à aujourd'hui. Bah, ils créent une boîte ensemble, quoi.
C'est ça, exactement. C'est le mot. C'est le mot actuel.
Et du coup, est-ce qu'on a des noms de ces entreprises, de ces associations ? Est-ce qu'ils avaient des noms ? Ou est-ce que, d'ailleurs, on avait, sur les devantures des boutiques. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait écrit? Est-ce qu'il y avait des devantures particulières?
Oui, alors il n'y a pas de nom particulier aux sociétés d'apothicaires, aux petites entreprises d'apothicaires, sinon le nom des apothicaires eux-mêmes. Mais on a quand même le nom parfois rare des apothicaires ou des boutiques. Alors de mémoire, je crois qu'on a le Bourdon d'Or. Ou bien, qui est, je trouve très classe, honnêtement, ou bien le Chat qui pêche, qui est en fait une enseigne qui était dans la rue du Chat qui pêche, qui existe encore aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'était la boutique d'une veuve d'apothicaire qui avait un garçon de boutique et deux domestiques. Et donc, si la rue est toute petite, peut-être que la boutique existe encore, mais peut-être plus une boutique d'apothicaire, mais ça pourrait être intéressant de retourner voir et peut-être que certains pourraient l'identifier.
Et est-ce que tu as vu des évolutions dans le monde des apothicaires parisiens sur la période que tu as étudiée, donc le XVIIIe siècle ?
Oui, j'ai parlé de l'apparition de l'appropriation des remèdes chimiques. Et ça, on le voit particulièrement lors des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire qu'aux alentours des années 1720, il y a une apparition des remèdes chimiques dans la liste des chefs-d'œuvre à composer par les apothicaires.
Donc c'est plus admis à ce moment-là.
C'est davantage admis, même si la pratique existait sans doute avant, depuis longtemps, pour être officialisée en 1720. Une autre évolution, c'est le développement du jardin des apothicaires, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un jardin qui, au cours du XVIIIe siècle, se reconstruit. Il y a de grands travaux qui sont menés en 1764, pour la date précise, avec un élargissement de l'amphithéâtre, la création d'un deuxième étage, la création d'une deuxième aile qui contient une bibliothèque et un cabinet d'histoire naturelle.
Oui, donc là, on n'est pas que sur un jardin, on est sur un complexe complet, en fait.
Complexe académique, exactement. Et même, je trouve l'anecdote assez intéressante, d'une machine à piler la thériaque. C'est une machine sans doute installée. Alors, je sais qu'elle était installée au fond du jardin, je ne sais pas où, mais au fond du jardin, une machine qui devait réduire en poudre le médicament des poudres.
Voilà. Oui, donc là, on voit l'apparition des machines pour travailler.
Il y a sans doute d'autres machines qui sont utilisées parce qu'il y a une machine de Lagareille.
C'est quoi?
Je ne sais pas. Je sais que c'est l'auteur d'un livre sur la chimie hydraulique, donc la chimie de l'eau, mais je ne sais pas à quoi ressemble cette machine. Par contre, j'en ai trouvé la référence dans un inventaire. Donc, il y a sans doute des machines qui commencent à être utilisées. D'ailleurs, on peut peut-être en parler, les ustensiles, les instruments d'apothicaire. Il y a des ustensiles traditionnels toujours utilisés, qui sont les casseroles, les poêles, les fourneaux, etc. Mais petit à petit, j'ai trouvé dans les inventaires l'apparition de lingotières. Donc, je pense que ça servait à faire couler des métaux. Donc là, on parle quand même de forte chaleur. On ne parle pas vraiment de poudre. Hein. Aussi, des machines à une presse à chocolat. C'est l'arrivée du chocolat.
Je renvoie vers mon épisode que j'ai fait sur le chocolat. Là, on en avait parlé assez en détail, effectivement.
Et puis, intéressant également, j'ai trouvé des baromètres et des thermomètres, mais pas dans les laboratoires, ni dans les arrière-boutiques. Les baromètres et les thermomètres, ils sont localisés aux premiers étages dans des pièces qui sont sans doute plutôt liées à la sociabilité pour recevoir, à côté des services à thé, par exemple.
C'est vraiment pour se montrer « regardez mon beau baromètre ».
Exactement, ils ne sont pas vraiment utilisés en pratique dans la préparation des remèdes parce que le système de mesure de la chaleur, il est complètement différent à cette période.
Et tu as choisi de faire tes recherches jusqu'à l'année 1777. Alors, je l'ai dit au début du podcast, mais je pense que tout le monde l'a oublié. Mais que se passe-t-il cette année-là pour les apothicaires parisiens ?
Oui, tu en avais parlé justement, c'est la dissolution des corporations. Le système pluriséculaire qui existe depuis plusieurs siècles en Europe, dans l'Europe entière, est dissous.
Mais c'est énorme comme changement, en fait, ça.
C'est un changement énorme. Et donc, les apothicaires, beaucoup de corporations, donc de communautés de métiers, perdent de l'argent, perdent du statut, mais les apothicaires continuent de rester bien lotis et ils transforment leur jardin des apothicaires en collège de pharmacie.
Mais alors, juste deux secondes, pourquoi les corporations disparaissent ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Là, c'est vraiment très compliqué à expliquer. Mais
déjà, en quelques mots, parce qu'on peut dire, mais c'était, comme tu l'as dit, quelque chose qui était établi depuis des siècles. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette année-là, on change tout ?
En fait, au XVIIIe siècle, il y a un peu un système à double vitesse à Paris, en tout cas, parce qu'il y a le système des corporations, mais il y a aussi le roi qui donne des privilèges à tout le monde. Et donc, il y a des personnes qui commencent à vendre des choses sans appartenir à des corporations, des communautés de métiers. Et donc, on a un système qui fonctionne différemment. Puis, il y a aussi, du point de vue social, des nobles qui se retrouvent avec beaucoup moins d'argent que des bourgeois, qui, normalement, dans l'ordre social, sont à une classe inférieure. Il y a un renversement, il y a des difficultés sociales. Et donc, je pense que tout ça, ça concourt à la décision de dissoudre les corporations, qui sont d'ailleurs très critiquées.
Parce que ça reflète plus ce qui se passe dans la société ?
Oui, sans doute. Il est possible qu'il y ait un lien avec la Révolution, ou plutôt que la Révolution ait un lien avec la dissolution des corporations. Moi, pour le coup, j'arrête mes recherches strictement à l'année 1777.
Oui, tu n'as pas travaillé là-dessus, donc tu ne pourras pas nous en dire plus.
Parce que je ne veux pas être influencée par... la suite.
Oui, parce que là, en niveau bouleversements sociaux, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, j'imagine.
Ça, c'est sûr. C'est une période qui est extrêmement bouleversée.
Et donc, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à parler de pharmacien plutôt que d'apothicaire ?
Le terme de pharmacien, qui remplace celui d'apothicaire, il apparaît avec la loi Le Chapelier en 1791.
Ah, donc juste après ta période, en fait.
Exactement. Donc, c'est à partir de ce moment que les apothicaires se font appeler pharmaciens. Parce qu'en fait, la loi Le Chapelier, elle cherche à sortir à nouveau du système des communautés de métiers. Et donc, elle change les noms des
métiers.
Donc
là, c'est vraiment la conséquence de la Révolution.
Là, on est dans les dynamiques de la Révolution, oui.
Et tu l'as dit un petit peu, mais est-ce que tu as pu voir peut-être des traces des apothicaires encore aujourd'hui à Paris ?
Les traces des apothicaires à Paris aujourd'hui, elles sont difficiles à trouver parce qu'il y a beaucoup de... Bon, d'abord, moi, quand j'ai une adresse d'apothicaire, en fait, j'ai pas le numéro. Il n'y avait pas de numéro.
Ah oui, donc...
donc, je peux pas retrouver la maison. Par contre, je sais qu'il y avait un apothicaire dans une rue. Tout à l'heure, je parlais de la rue du Chat qui pêche. Comme elle est petite, on peut se dire... Il y a peut-être une chance de retrouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix.
Tu n'es pas encore allé voir. Hein.
Je ne suis pas encore allé voir, non.
Parce que là, j'imagine, le travail dans les archives, tu as encore beaucoup de choses qui t'attendent si tu dois les chercher. Là, vraiment, j'imagine sur le cadastre et tout ça.
Oui, je pense que là, ce serait le cadastre. Et bon, moi, je n'ai pas le temps de poursuivre dans cette direction-là pour ma thèse. Mais ouais, ce serait passionnant de poursuivre...
Tu ne vas pas refaire la recherche, effectivement, de où est-ce qu'ils étaient précisément dans Paris ?
Non, ça, je ne vais pas le faire. Après, je suis quand même capable de produire des cartes et d'identifier dans quelle rue étaient les apothicaires de Paris. Et au départ, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais que quelques apothicaires. J'en avais une dizaine. Je n'avais pas forcément leurs adresses. Et puis, grâce au catalogue des marchands, je suis capable de produire des cartes sur plusieurs années... Et donc de voir une évolution, ce qui est très intéressant.
Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être faire une suite à tes recherches, ou qui voudraient peut-être, sur leur temps libre, chercher où sont les apothicaires à Paris, ils peuvent te contacter pour t'aider peut-être ?
Absolument, volontiers.
Ah bah ouais, bon là, l'appel est lancé. Alors, tu nous as parlé de plein de sources, mais est-ce qu'il y a des sources que tu ne nous as pas encore évoquées, sur lesquelles tu travailles pour tes recherches ?
Oui, il y a tout le fonds de l'ancienne corporation des apothicaires qui n'existe plus aujourd'hui. Il est conservé à la bibliothèque de pharmacie, donc la bibliothèque de la faculté de pharmacie qui est rue de l'Observatoire, avenue de l'Observatoire. Donc là, c'est un fonds entier. Ça, moi, je l'ai travaillé, mais il y a encore énormément de choses à étudier dedans, notamment sur les conflits entre les corps de métier. Donc ça, c'est un fonds que j'utilise énormément avec des registres de délibération, les rencontres, les assemblées des apothicaires, les registres de comptes, des lettres également. Il y a des objets de musée. Moi, je travaille moins dessus, mais il y a quelques objets qui sont conservés, qui sont très intéressants pour une étude de culture matérielle. C'est vraiment passionnant. Ah oui, et puis je me sers énormément d'ouvrages médicaux aussi, d'ouvrages pharmaceutiques de l'époque, de littérature médicale en général.
Et à part le fait que tu aies des milliards et des milliards de sources et beaucoup, beaucoup de choses à faire, quelles difficultés est-ce que tu rencontres ?
La difficulté, je dirais, c'est la quantité, surtout liée aux archives notariales, en fait, parce que la quantité et l'absence, à la fois. C'est-à-dire qu'il y a, pour un inventaire après décès, c'est environ 30 à 70 pages, ça dépend. Et donc, c'est écrit petit, c'est long, c'est du français du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est difficile à déchiffrer, parfois à transcrire.
Et pourquoi puis, parce que c'est mal écrit
c'est parfois mal écrit. En fait, il faut imaginer des notaires qui viennent dans leur maison, dans les maisons des apothicaires et qui écrivent avec un assistant pour écrire pour eux, qui écrivent pendant la visite. Donc, c'est pas très confortable. L'écriture, elle est parfois pas très lisible.
C'est même pas mis au propre après ?
Si, alors des fois, il y a ce qu'on appelle des expéditions, c'est-à-dire des copies Donc, celles-ci, elles existent. Mais en fait, elles n'existent pas dans les fonds que je consulte. Après, il y a aussi plein d'archives qui ne sont pas référencées par les archives nationales. Les archives nationales à Paris qui contiennent les inventaires après décès et tous les actes notariés. Et là, tout n'est pas référencé. Donc, il y a un gros travail de recherche à faire par nom de notaire, par paroisse, pour identifier après dans les répertoires des notaires des noms potentiels d'apothicaires. Et donc là, c'est un travail...
Parce que en gros, tu vas aux archives, tu as des énormes cartons, on te dit « Ok, voilà ». Et donc toi, tu dois éplucher un à un pour essayer de trouver tes apothicaires.
Ça, par chance, je n'ai pas eu besoin de le faire parce que j'avais exactement la date de l'acte notarié. Donc, j'étais capable de retrouver dans une liasse de documents, en un clin d'œil, un acte notarié.
Oh, ben ça va alors.
Par contre, des fois, j'étais chanceuse quand dans l'inventaire, il y a le contenu des papiers qui est décrit, qui est le cas à chaque fois, et que des fois, il y a le papier la référence à un autre acte, un autre inventaire après décès ou un brevet d'apprentissage. Et donc là, je vais chercher avec le nom du notaire où se situe, dans quelle boîte, et je peux remonter comme ça. Mais ça, c'est un travail de souris.
Est-ce que tu as eu peut-être d'autres bonnes surprises pendant tes recherches ?
Oui, une bonne surprise, c'est un jour, j'ai demandé un carton d'archives. C'était une liasse, en fait, de pièces. Et tout à la fin, je trouvais que c'était assez épais. Et je me suis dit, ça doit être du parchemin, ça doit être un gros papier en cuir ancien, à l'ancienne. En fait, j'ai tourné les pages et j'ai découvert des sacs en papier. Donc ça, c'était une surprise très étonnante.
Comment ça, des sacs en papier ?
Des sacs en papier, des sacs en tissu. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut mettre des objets avec du papier ? Et en fait, ignorante que j'étais, j'ai demandé. Et ils m'ont dit, mais le papier, le tissu, c'est comme du papier, c'est du tissu. Et donc, ça se conserve de la même façon. Donc, c'est quand même la sorte de trouvaille qu'on ferait... presque jamais dans une vie de chercheur, mais j'ai trouvé ces sacs qui, par ailleurs, servaient à saisir les médicaments dans des boutiques d'épiciers ou d'apothicaires non membres de la corporation pour les confisquer, en fait. C'était des sacs de saisie.
Ah oui, donc rien à voir avec les apothicaires, en fait. C'est juste, ça peut être utilisé pour autre chose.
Ils sont utilisés par les apothicaires de la corporation lorsqu'ils font des visites des boutiques pour aller saisir les remèdes qui ne devraient pas être vendus dans les boutiques visitées.
Ah, c'est génial d'avoir ces objets-là.
Et donc, ces petits sacs, ils sont adorables parce qu'ils sont étiquetés avec des petites étiquettes, cette fois-ci en parchemin. Donc, on est sur du papier épais en peau et des petits fils, eux aussi en cuir. Et donc, c'est assez drôle à voir, environ 20 cm sur 30 ou 40.
Donc là, tu as plein d'indications très concrètes. En fait, là, tu es en contact direct avec la vie des apothicaires.
Là, je suis en contact direct avec les objets. Mais d'une certaine façon, quand j'ouvre un compte d'apothicaire, je suis aussi en contact direct avec un objet qui, cette fois-ci, est un livre.
Oui, oui, je comprends, effectivement. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils de lecture pour des personnes qui voudraient en savoir plus sur les apothicaires ? Alors, peut-être des ouvrages grand public, sachant que, comme d'habitude, vous le savez, auditeurs, auditrices, je mettrai sur le site une bibliographie un peu plus détaillée pour les personnes qui voudraient vraiment creuser le sujet. Mais déjà, Bérangère, est-ce que tu as des conseils comme ça de livres grand public ?
Livres grand public, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Je conseillerais le livre passionnant de Danielle Alexandre Bidon, qui est une historienne archéologue et qui a écrit un livre intitulé « Dans l'atelier de l'apothicaire ». Et là, c'est énormément d'images, donc c'est bien, ça permet de s'imaginer les objets. Et elle étudie tous les pots et tous les ustensiles des apothicaires.
Oui, donc c'est un bon complément par rapport à ce que tu fais.
Ça, c'est extrêmement, extrêmement intéressant, oui.
Bon alors, Bérangère, pour finir, est-ce que tu as peut-être un conseil pour des gens qui voudraient faire des recherches là-dessus, est-ce qu'il y aurait pour toi encore des professions qui seraient à étudier à Paris au XVIIIe siècle ? Donc là, des choses qui pourraient être étudiées par les futurs chercheurs et chercheuses.
Tout à fait. Il y a évidemment les chirurgiens. Ce serait très intéressant, une étude sur les chirurgiens. Il y a les travaux de Christelle Rabier déjà, mais je pense qu'il n'y a pas assez de travaux là-dessus de manière générale. Et puis, il y a déjà eu des choses sur les médecins, je crois.
Oui, bah les médecins, on a pas mal de choses là-dessus, notamment, alors j'avais consacré un épisode, l'épisode 15, c'était avec Isabelle Coquillard qui a fait sa thèse un peu sur la même période que toi, les médecins parisiens entre 1707 et 1789 à Paris.
Et puis après, de manière générale, sur plein de métiers, il y avait énormément de métiers à Paris, les tanneurs, différentes sortes.
Et ça manque de choses là-dessus.
Tanneur, c'est juste un exemple, hein, mais sur les métiers, en fait, c'est simple, c'est la difficulté, toutes les archives des corporations, elles ont brûlé. lors d'un l'incendie de l'hôtel de ville. Je ne me souviens plus en quelle année, mais c'est à la fin du 19e siècle. Mais les archives de la corporation des apothicaires, elles avaient été transférées dans ce qui s'appelait l'école de pharmacie. Donc celles-ci, elles existent encore.
Ah ouais, mais donc c'est vraiment des archives précieuses sur lesquelles tu travailles.
Tristesse absolue pour tous ceux qui voudraient travailler sur les autres corporations de métiers. Mais il y a sans doute des choses dans les archives du Châtelet, donc la police, voilà, sur les métiers. Ce serait très intéressant.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez plus sur les apothicaires. Vous savez en quoi consiste le travail, la vie des apothicaires et notamment à Paris. Donc merci beaucoup Bérangère Pinault, bah, c'était passionnant, je te souhaite bonne continuation pour la suite de ta thèse et que tu continues à avoir ce même enthousiasme et passion pour tout le reste.
Merci beaucoup Fanny.
Auditeurs, auditrices, bah voilà, on vous l'a dit, si vous voulez en savoir plus, vous le savez maintenant, vous le savez maintenant, ça fait plus de 41 épisodes si on compte pas leur série. Il y a à chaque fois pour chaque épisode un article sur le site, avec donc on vous mettra notamment des conseils de lecture, pas mal de choses comme ça. Et tant que vous êtes sur le site, bah, je peux vous conseiller d'autres épisodes en lien. Alors, il y a l'épisode 3, je l'ai déjà mentionné, sur les sages-femmes en Alsace, donc l'épisode 15 sur les médecins à Paris au 18e siècle, mais aussi, tiens, je vous en rajoute trois autres, vraiment, c'est pour moi, c'est cadeau. On a fait l'épisode 16 sur Madame Eloff, donc là, un métier, donc une marchande de mode pour continuer sur le monde des métiers. Encore sur le monde des métiers, l'épisode 32, c'était sur le travail à Nantes, notamment le travail des femmes à Nantes au 18e siècle. Et je vous rajoute, bah tiens, sur le siècle des Lumières, un sujet un peu lié au corps, mais différemment, la puberté au siècle des Lumières, c'était l'épisode 20. Voilà, vous avez pas mal de choses à écouter, allez voir tout ça. Et n'hésitez pas aussi à aller voir tous les épisodes de Passion Moderniste, et aussi à voir mes autres podcasts, j'ai Passion Médiéviste sur le Moyen-Âge, et Passion Antiquité, bah, sur Antiquité, vous avez compris. N'hésitez pas à parler de cet épisode si vous a plu autour de vous. Voilà, je compte sur vous vraiment pour le diffuser à vos amis, à votre famille, à vos collègues, sur les réseaux sociaux, vraiment, n'hésitez pas à partager Passion Moderniste, parce que vraiment, le bouche-à-oreille, c'est ce qui marche le mieux pour diffuser les podcasts, donc je compte sur vous. Si vous voulez soutenir financièrement mon travail, que c'est possible pour vous, que vous en avez la possibilité, je vous explique comment faire sur mon site patientmedieviste.fr/soutenir, voilà, même 1 euro par mois, ce sera beaucoup, parce que si tous les gens qui m'écoutent me donnaient 1 euro par mois, ben, déjà que j'arrive à consacrer de plus en plus de temps au podcast grâce à vous, grâce au soutien des auditeurs auditrices, ben là, je pourrais faire mes peut-être, oh, je rêverais de pouvoir faire de nouveau un épisode de Passion Moderniste par mois. Là, malheureusement, j'ai pas le temps parce que je fais déjà Passion Médiéviste, qui est quand même ma priorité, c'est mon plus gros projet, et j'ai dû mettre un peu en retrait Passion Antiquité et Passion Moderniste et en faire que un tous les deux mois, donc j'alterne, il y a un mois et un Passion Antiquité, un mois et une Passion Moderniste. Mais voilà, là, malheureusement, c'est une question de temps et d'argent, il faut bien que je gagne ma vie, donc voilà, si jamais vous voulez, bah c'est 1 euro par mois, pour vous ce sera pas grand chose, c'est comme me payer un café, alors j'aime pas le café, alors ce sera plutôt un thé ou peut-être un chocolat par mois, et ça m'aidera beaucoup. Encore une fois, c'est si vous avez la possibilité et que c'est pas compliqué pour vous, ça m'aidera beaucoup, donc je vous dis merci beaucoup d'avance. Et dans le prochain épisode de Passion Moderniste, on parlera d'un sujet totalement différent, très important, on parlera de l'esclavage à l'époque moderne. Salut !